ce n'est pas de savoir s'il existe une république des juges, c'est qu'il existe une république parce qu'il existe des juges.
Bonjour à toutes et à tous, quelle joie de vous retrouver pour un nouveau numéro de Zoom Zoom Zen, 2 heures chaque après-midi pour décrypter l'air du temps à travers ses mots, ses expressions. Et aujourd'hui, alors que Nicolas Sarkozy doit être fixé sur sa date d'incarcération, nous allons zoomer sur une expression qu'on entend énormément en ce moment, surtout sur CNews et dans les dîners chez Pierre Courade, notre rédacteur en chef adjoint en quartier Les Républicains, la République des juges. Y a-t-il vraiment, dans notre pays, une justice qui parfois outrepasse son rôle pour orienter le jeu politique, une justice qui aurait un agenda politique, ou bien cette expression est-elle juste une arme dans la bouche de ces responsables politiques qui ne veulent pas assumer leur délit ? Une chose est sûre, c'est une journée éprouvante pour les fans de Nicolas Sarkozy. Je rappelle que ce matin, la façade de Radio France a été dégradée, sauvagement tagué de slogans parmi lesquels « Gauchiste partout, justice nulle part »,« Sarko, mon héros » ou encore « Amnestie pour François Fillon ». Le responsable de ces dégradations honteuses n'avait évidemment pas signé son forfait, mais grâce à l'analyse en labo de la peinture utilisée, qui en fait n'était pas de la peinture, mais de la poutargue, issue de l'épicerie L'Idéal de Julia Samut, 11 rue d'Aubagne à Marseille, la police a pu rapidement remonter et passer les menottes, oui, à notre rédacteur en chef Cyril Lacarrière, qui s'était barricadé dans les water de l'Agora, et qui, après avoir tenté d'assommer les policiers avec son exemplaire du livre Le Temps des Combats de Nicolas Sarkozy, avait été maîtrisé sans difficulté. Il faut dire que c'était une édition poche. Le forcené qui à aucun moment n'a manifesté le moindre remords pour ses actes, puisque dans l'estafette qui l'emmenait au dépôt, a continué de marmonner
« Meurs, pourriture communiste !»
Zoom Zoom Zen, c'est parti.
France Inter. Zoom Zoom Zen. Mathieu Noël.
Et bonjour Benjamin Morel.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Inter cet après-midi. Vous êtes constitutionnaliste, docteur en sciences politiques, maître de conférences en droit public à l'Université Paris 2 Panthéon-Assas. Vous intervenez régulièrement dans les médias pour nous éclairer sur les rouages de la politique et du droit. Alors la justice qui s'intéresse de plus en plus au monde politique et les politiques qui s'insurgent quand la justice s'intéresse trop à eux. Et ce terme qui revient régulièrement, cette petite musique, la République des juges. Qu'est-ce qui se cache derrière? Vous allez tout nous expliquer, juste le temps de vous présenter mes chers collègues. Ils ont encore de l'enchoyade au coin des lèvres. Manon a encore 2 sacoches de Ricard sous les yeux. Oui. C'était vraiment une belle déloque à Marseille ce vendredi. Oui. Manon Mariani, Quentin, lui, bonjour.
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 Bonjour à tous. Un commentaire, Quentin.
Ah non, vous avez cherché du Ricard toute la première partie de soirée.
Je n'en ai pas vu.
Voilà, c'est ça.
D'autres choses, mais pas du Ricard.
Il faisait 25 degrés, un grand soleil. Ah, oui, On est si heureux d'être de retour à Paris sous la grisaille pour parler de Nicolas Sarkozy. Mais vous êtes évidemment des professionnels. Manon, oui, vous avez une petite pièce jointe pour nous.
Oui, aujourd'hui, une juge franco-norvégienne qui a fait de la lutte contre la corruption son combat. Il y a des puissants qui ont tremblé face à elle et ses lunettes rouges.
Face à vous, Benjamin Morel, son week-end marseillais a été un peu plus mouvementé que celui de Manon, dont la plus grande aventure a été, rappelons-le, la recherche d'une crème solaire indice 50 afin, je cite, qu'elle ne se présente pas au public avec un nez de clown. Quentin gardera, lui, un souvenir plus mitigé de son passage dans la cité phocéenne, puisqu'en effet, après avoir trouvé judicieux de diffuser dans sa chronique un Parisien se foutant de la gueule de l'accent marseillais avant de carrément lancer
Marseille, Marseille, on t'encule.
Quentin a été retrouvé au fond des quartiers nord, dans le coffre d'une Audi RS6 Grinardo, après que nous ayons payé la rançon exigée par la DZ Mafia.
Vous avez payé
un maillot de l'OM dédicacé par Benjamin Pavard.
Ah, ouais.
Cyril, n'ayant pas souhaité donner le sien, parce que je le cite, faut pas exagérer, Quentin est pas irremplaçable non plus, on appellera Dodwick. C'est moi qui ai sacrifié mon précieux maillot.
Ah.
Quentin, retour à la normale.
Merci,
donc, mais oui, c'est moi.
Merci beaucoup. Merci,
retour à la normale donc pour vous, un micro-trottoir à Paris.
Au pied du tribunal de Paris,
ah,
Mathieu.
Oui, oui.
Ce bâtiment qui ressemble à un vaisseau de Star Wars de 3 niveaux en verre au bord du périph. Est-ce que ça discute de la République des juges sur place? Réponse dans la prochaine demi-heure.
Justice indépendante, mon cul, que des gauchias syndiqués, pestait Cyril pendant la fouille corporelle préalable à son placement en garde à vue. Même si le propos est cru et excessif, nous verrons vers 16h30 dans le quiz que parfois, oui, les juges se lâchent un peu dans leur verdict. Le Zoom Zoom Test sera consacré aux jugements les plus drôles de l'histoire. Juste avant 17h, nous verrons ce que Marine Leonardi, la maman la plus drôle de France, a à nous dire de la République des juges. Spoiler alerte, certainement que son mari passe trop de temps sur les toilettes, puisque oui, tous les chemins mènent vers cette anecdote. Après 17h...
Comment résumer son humour, quoi.
Après 17h, restez avec nous, il n'y a pas que la justice qui est attaquée en ce moment, il y a aussi l'audiovisuel public. Et justement, on recevra celle qui en parle beaucoup dans son nouveau livre, notre ancienne patronne à Inter, Laurence Bloch. Mais d'abord, Benjamin Morel, c'est donc aujourd'hui que Nicolas Sarkozy doit être fixé sur sa date d'incarcération. À l'heure où on se parle, il est d'ailleurs fixé sur la date, c'est juste qu'on ne le sait pas encore, ça n'a pas encore fuité. Est-ce que, en contre-attaquant très vite après l'énoncé du jugement en dénonçant une violation de l'état de droit. Est-ce que c'est lui qui a gagné la bataille de l'opinion publique contre la justice ?
C'est pas certain en réalité. Il a gagné une partie de l'opinion publique, comme à chaque fois qu'on attaque la justice. À chaque fois qu'il y a des affaires politico-judiciaires et que vous avez des politiques qui attaquent le fait qu'il serait victime d'un grand complot des juges, l'opinion publique se comporte de la même façon. Vous avez les partisans de la personnalité politique en question qui est persuadé qu'en effet, il y a un système de la justice qui est fait pour l'étouffer, et vous avez le reste de l'électorat qui dit bah, finalement, il a eu ce qu'il mérite et c'est bien fait. Et donc, on voit que peu à peu, Nicolas Sarkozy a gagné la bataille dans l'espace, on va dire, Le Pen-Fillon, qui était déjà très très défiant vis-à-vis des juges, mais que, quand vous prenez les enquêtes plus générales, il y a plutôt une approbation de la décision de justice.
Ça ne fait pas bouger les lignes, quoi.
Ça ne fait pas bouger les lignes, et in fine, c'est également pas très bon, parce que ça donne le sentiment que chacun voit la justice à sa porte, chacun considère que, quand le juge a raison, c'est parce que la personne qu'il condamne n'est pas une personne qu'il apprécie.
L'avocat de France Inter a obtenu pour lui une libération conditionnelle. A-t-il chanté en sortant de garde à vue en début d'après-midi ? Le tagueur à la Poutargue est de retour parmi nous. Alors Cyril, même si vous êtes très remonté contre ceux que vous appelez les petits pois, ces juges rancuniers qui ont envoyé le président Sarkozy au Newf, racontez-nous avec pondération, s'il vous plaît.
Avec
pondération, s'il vous plaît. Non, c'est pas quelqu'un qui vous adresse, c'est une manière de le dire.
Ah oui,
la République des juges, d'où ça sort, Cyril ?
Imaginez un pays où les juges ne se contentent pas d'appliquer la loi, ils gouvernent carrément à la place des élus. Un pays où leurs décisions ne pèsent plus lourd que les décrets des ministres. Ce pays, ce n'est pas une dystopie, c'est celui dans lequel semble vivre le président Sarkozy. Ce pays qui serait, ça serait la France, selon ceux qui dénoncent la fameuse République des juges. Notez que ça marche aussi.
C'est stupéfiant, cette production.
Ah ouais. Vous faites surprendre par vos propres effets.
Il avait pas écouté,
c'est pas le mien. C'est celui de notre réalisatrice, Alicia Vulle. Notez que République des juges, ça marche aussi avec gouvernement des juges. Et c'est en 1921 qu'apparaît cette expression, on la doit à Édouard Lambert. Qui est Édouard Lambert ? C'est un juriste français. En 1921, il participe à la Revue internationale de droit comparé et il écrit un chapitre qui s'intitule « Le gouvernement des juges et la lutte contre la législation sociale aux États-Unis ». À l'époque, Lambert pointe du doigt le rôle de plus en plus politique joué par la Cour suprême américaine. On se demande ce qu'il dirait aujourd'hui.
En France, on va en parler avec le rôle joué par le Conseil constitutionnel.
Oui, le Conseil créé par le général de Gaulle qui voulait justement éviter les dérives de la Cour suprême américaine. Et justement l'émergence d'un gouvernement des juges. L'accusation finira quand même par tomber. Par exemple, quand en 1971, le Conseil censure une loi au nom de la liberté d'association. Pour la première fois, des juges constitutionnels limitent le pouvoir politique. Alors d'où ça sort, la République des juges ? Et bien de là, et ce n'est que le début de notre histoire.
Merci Cyril. Benjamin Morel, déjà, quand on parle de République des juges, c'est forcément une critique. Ça peut pas être positif.
Ça peut être positif si on considère qu'il ne peut pas y avoir de société qui tienne si vous n'avez pas de juge. Alors d'habitude, historiquement, c'est plutôt le politique qui a le rôle de juge. Si vous vous souvenez, Saint-Louis sous son chêne, etc. Dès le moment où on divise, où on isole la justice, on considère que la justice doit être neutre et qu'on ne peut pas avoir de confusion entre les deux. Mais malgré tout, vous avez besoin de juges, pour arriver à maintenir une société. Un pouvoir politique qui agit sur le réel, qui donne la capacité à la communauté politique d'agir sur son propre destin, c'est le premier pilier. Un juge qui permet de trancher les litiges et de les trancher de manière équitable, c'est le second pilier. En fait, c'est ce qui nous sépare de l'état de barbarie ou de l'état de nature.
Rien que ça.
Oui, c'est-à-dire que dans une société qui est une société qui n'a pas justice, malgré tout, vous avez des conflits. Et ces conflits, comment est-ce que vous les réglez ? Vous prenez un gourdin et vous tapez gentiment sur la tête de votre voisin pour vous venger. Si vous voulez éviter ça, vaut mieux qu'il y ait un tiers neutre qui arbitre entre vous.
D'un strict point de vue théorique, parce qu'évidemment, je ne dis pas du tout que c'est le cas de la France, mais on pourrait imaginer, avec la séparation des pouvoirs, on pourrait imaginer effectivement que des juges, une caste de juges, utilisent leur pouvoir pour saper le pouvoir politique, ou en tout cas défendre leurs intérêts, favoriser les intérêts de leurs partisans au sein des politiques. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça, c'est possible.
C'est non seulement possible, et c'est advenu, c'est-à-dire que la Révolution française, elle se fait contre qui ? Elle se fait pas d'abord contre le trône, d'ailleurs. Elle se fait d'abord contre les parlements. Les parlements, ça n'a pas grand-chose avec le parlement qu'on connaît aujourd'hui. Les parlements, c'est des parlements judiciaires. La Révolution française, elle se fait d'abord contre ces parlements de justice. Ensuite, tout à l'heure, Édouard Lambert a été cité. Il y a un vrai souci aux États-Unis lors des années 20 et des années 30. La Cour suprême à dominante républicaine veut empêcher le New Deal. Et donc, dans ce cadre-là, que fait Roosevelt ? Il dit à la Cour suprême, écoutez, c'est très simple, vous êtes neuf, mais c'est marqué nulle part que vous êtes neuf. Il y a 9 juges à la Cour suprême. Demain, vous pourriez être 18. Acceptez le New Deal, ou demain, vous serez 18 et je ferai passer mes lois quand même. Lorsqu'on a un blocage dans la justice, ou lorsque le politique a un problème avec la justice, il change les juges. ou bien il les convertit. La profession qui était la plus syndiquée et la plus présente au sein du parti nazi, c'était la profession de juge en Allemagne. Et vous comprenez pourquoi le nazisme s'est installé en Allemagne, y compris en matière de justice, si vous comprenez cette conversion des juges. Lorsqu'en 1961, De Gaulle a un problème avec des juges qui sont proches de l'Algérie française, il utilise l'article 16, le fameux, on en reparle en ce moment, et il purge la justice. Alors, c'est pas bien, hein, parce qu'il remet en cause l'indépendance de la justice, etc. Et on pourrait considérer qu'à ce moment-là, il abuse de son pouvoir prévu par l'article 16, mais il fait une purge de la justice par voie d'article 16. Donc, vous voyez que le débat qu'on a aujourd'hui, bah, c'est pas un débat tout à fait nouveau.
France Inter, Zoom Zoom Zen, Mathieu Noël.
Nicolas Sarkozy a-t-il été victime d'une cabale politique des juges ou bien tout ça, c'est du flan? Zoom cet après-midi sur la notion de république des juges avec le constitutionnaliste Benjamin Morel. Benjamin, depuis quand la justice se mêle des affaires politiques? Est-ce que longtemps elle n'a pas trop osé?
Longtemps, elle n'a pas trop osé. Elle n'a pas trop osé à la fois parce que ça ne se faisait pas, qu'elle considérait qu'elle n'avait pas à intervenir, à interférer dans des processus électoraux, et ensuite parce qu'il n'y avait pas forcément de base juridique. En fait, il y a un paradoxe actuellement. On a probablement, c'est pas populaire ce que je vais dire, mais on a probablement la classe politique la plus propre de l'histoire. Pas parce qu'on a des femmes et des hommes politiques qui sont particulièrement moraux, mais parce qu'aujourd'hui, en fait, paradoxalement, le modèle marche bien. La multiplication des affaires, bah, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a des juges qui osent et qu'on arrive à qualifier juridiquement les infractions, tant et si bien que si vous êtes un personnage politique et que aujourd'hui vous décidez d'être corrompu, il y a de très grandes chances que vous fassiez rattraper par la patrouille. Donc la multiplication des affaires, paradoxalement, est une preuve de bonne santé démocratique et d'un système qui marche plutôt bien. Dans les années 80, à la suite des affaires Urba, etc., on multiplie les lois qui ont une forme d'efficacité, les lois de moralisation, etc. Et donc aujourd'hui, on a un corpus juridique qui permet de qualifier et des juges qui osent. Et ça, bah, ça a créé partout en Europe, hein, mais un effet de... un investissement des juges dans la politique qui fait qu'aujourd'hui, eh ben, on n'a plus peur de ces affaires.
Et c'est le résultat aussi de plein d'autres choses. Par exemple, c'est vrai que Jacques Chirac avait été entendu, mais malade, vieux. François Mitterrand est mort quasiment 8 mois après la fin de son dernier mandat. C'est le premier, finalement, qui est rattrapé, jeune, en bonne santé, qui peut répondre. C'est ça aussi qui fait qu'on peut s'attaquer aux politiques aujourd'hui ou à un ancien président de la République ?
Alors, il y a ça, c'est-à-dire qu'on a en effet un rajeunissement de la classe politique, on a un turnover beaucoup plus important, hein, parce qu'avant, vous étiez pendant 40-50 ans dans la vie politique. Et l'autre élément, c'est qu'on a des faits qui, aujourd'hui, sont qualifiables parce qu'en fait, eh ben, les lois datent de la fin des années 80 et des années 90, pour les plus importantes. Et donc, ce qui s'est passé, qui n'aurait peut-être pas vraiment pu être qualifié de manière aussi facile dans les années 80-70, eh bien, aujourd'hui, peut-être, on a une mutation également de la justice. Hein. Le PNF, le parquet financier, bah, c'est une création relativement récente, avec des moyens, avec une capacité d'action. Là où un juge, dans les années 70-80, c'est un artisan. Il est tout seul face à une affaire gigantesque. Vous avez évidemment des pressions potentielles du politique face auxquelles il a plus de mal à résister. Donc on a une mutation de la justice, une mutation des normes sur lesquelles elle s'appuie, et de l'autre côté, eh ben, vous avez qui plus est une mentalité générale qui a changé, qui fait qu'aujourd'hui, eh bien, on peut y aller, on peut qualifier, on peut condamner.
Mais justement, ben c'est pas un peu paradoxal de voir les politiques aujourd'hui se plaindre de la justice alors qu'elle ne fait qu'appliquer les lois votées par le Parlement?
Bah, y a un grand paradoxe chez les politiques, c'est-à-dire que quand vous avez, c'est le paradoxe Fillon, quand François Fillon dit lors de la campagne interne à LR, enfin oui, aux Républicains déjà à l'époque, qui verrait le général de Gaulle mis en examen et qui, quelques mois plus tard, eh ben, est mis en examen et reste malgré tout candidat. C'est-à-dire que c'est tellement tentant quand vous êtes un politique de pointer le fait que votre opposant politique, c'est vraiment un pourri, qu'il faut lui, etc. Même si, pour le coup, l'affaire n'est peut-être pas existante, l'affaire est peut-être évanescente, il n'y a peut-être rien dedans. Souvenez-vous, l'affaire de Rugy, François de Rugy, ancien président de l'Assemblée nationale. Il n'y a rien.
L'affaire du homard.
L'affaire du homard. Il y a un homard, très bien, il a mangé du homard.
Il n'aimait pas ça, lui. Hein.
En plus, il n'aimait pas ça.
Il était allergique. Il était allergique et il avait, soi-disant, un sèche-cheveux en or qui s'est avéré ensuite ne pas être en or. Il n'y a absolument rien dans l'affaire de Rugy. Et l'ensemble de la classe politique tombe sur le dos de ce pauvre François de Rugy en disant c'est horrible, vous avez manger un homard, mais derrière...
Avec un sèche-cheveux en or.
Et derrière, bah, c'est l'arroseur arrosé. C'est-à-dire que quand vous voulez jouer les perles à morale et que le lendemain, bah, vous vous retrouvez dans une situation où vous-même vous êtes pris dans une situation compliquée, tout d'un coup, l'opinion vous en veut. Le problème de François Fillon, c'est qu'après avoir joué le père la morale, eh bien, il s'est retrouvé la cuillère dans le pot de confiture, et ça, évidemment, bah, ses électeurs ne lui ont pas pardonné.
Il y a un point quand même qui peut interroger, c'est que les magistrats peuvent se syndiquer, ils peuvent prendre position contre tel ou tel projet de loi ou texte adopté par le Parlement, ils peuvent même intégrer un parti politique. Est-ce qu'il n'y a pas là un petit problème ?
Non, pas nécessairement, parce qu'en fait, un magistrat qui n'aurait aucune idée politique, ce serait soit un robot...
Oui, une IA.
Une IA, et d'ailleurs, pourquoi pas, hein, c'est-à-dire qu'on a aujourd'hui des modèles d'IA, etc. Puis si vous lisez Montesquieu, quand Montesquieu dit « le juge doit être la bouche de la loi », il entend que le juge doit se contenter d'appliquer un syllogisme. La loi dit que si jamais je vole, j'aurai la main coupée, or j'ai volé, donc j'ai la main coupée. Cette vision-là de la justice, elle est impossible, parce que le droit, c'est nécessairement de l'interprétation, et que donc on ne peut pas déléguer ça à un algorithme, on ne peut pas déléguer ça, il faut individualiser, il faut comprendre l'humanité de la justice en la matière.
Le mur des cons, ça ne vous avait pas choqué à l'époque ?
Bah, on peut considérer que c'est relativement choquant, mais il faut considérer que le juge 1 est d'une certaine façon double. Il y a le citoyen, et le citoyen peut avoir des convictions politiques, comme nous en avons tous, nous allons voter, etc. Et de l'autre côté, il y a le professionnel. Le professionnel, lui, eh bien, doit se détacher des convictions politiques qui sont les siennes. Est-ce que c'est toujours le cas ? Je vous mentirais en disant que c'est le cas. Parce qu'en fait, évidemment que vous pouvez avoir des juges qui vont mal juger. Mais il faut comprendre que l'institution judiciaire, elle, a été pensée, construite pour gérer des problèmes. C'est-à-dire que dire qu'une décision de justice, souvent quand on parle de l'état de droit, on dit « Non mais on n'a pas le droit de critiquer une décision de justice ». J'espère bien que si, parce que mon métier à moi, en tant que constitutionnaliste, c'est de prendre des décisions du Conseil constitutionnel et de dire qu'elles ne tiennent pas debout. Donc sinon, si on ne peut pas critiquer une décision de justice, à ce moment-là, il faut que j'aille en prison. Et quand je fais faire des commentaires d'arrêt à mes étudiants, je corromps la jeunesse. Évidemment qu'on peut critiquer une décision de justice. En revanche, derrière, vous avez tout un mécanisme qui permet à la justice de se contrôler, des appels, des cassations, des recours qui font que si une décision est malheureuse, elle peut l'être. À ce moment-là, l'institution est là pour la gérer. Et c'est ça, entre guillemets, la différence entre la critique d'un juge, d'une décision de justice qui, en effet, peuvent poser question, et de l'autre côté, la critique de la justice comme institution qui devient dangereuse.
Face à vous, Benjamin Morel, on n'est pas passé loin du drame vendredi à Marseille. La longue et belle histoire du complètement à la rue aurait pu se terminer par un complètement dans le coffre, qui aurait eu le mérite d'offrir à notre collègue Fabrice Rouel un savoureux numéro d'affaires sensibles, Quentin la bûche carbonisée. Heureusement, nous avons payé la rançon et vous voilà, Quentin, frais comme un gardon, prêt à nous présenter un nouveau micro-trottoir. Ouais. Donc mon maillot de Benjamin Pavard,
oui, sacrifié. Allez, je suis devant le tribunal de Paris, cette fois, pas à l'historique, sur l'île de la Cité, mais bel et bien au pied de ce bâtiment futuriste tout vitré qui borde le périph dans le 17e arrondissement. Ça bouillonne sur cette esplanade où une stèle est dressée à la mémoire de Robert Badinter d'ailleurs. Avant même que je lance l'enregistrement, cette jeune femme reconnaît le micro France Inter.
Bonjour.
En fait, vous nous connaissez.
Ben oui, Quentin.
Pourquoi ?
Parce que j'écoute Zoom Zoom Zen, bien évidemment.
Qu'est-ce que vous faites ? On dirait que c'est faux. On dirait que c'est joué.
Je suis avocate, c'est peut-être pour ça que je sais jouer.
Elle découvre la notion du jour qu'on décortique dans Zoom Zoom Zen.
La République des juges, qu'est-ce que ça m'évoque ? Aïe. Pas grand-chose de positif.
Évidemment, elle me parle de l'affaire Sarkozy et du financement libyen. Elle n'est pas étonnée qu'il joue la carte, l'ancien avocat, d'un jugement qui serait politique.
Et ça ne m'étonne pas d'un avocat, d'ailleurs, d'avoir ce genre de discours, parce que forcément, on sait utiliser les rouages pour son propre intérêt, pour l'intérêt de ses clients, mais là, en l'occurrence, c'est clairement son propre intérêt.
Ça vous a amusé, la sorte de conférence de presse qu'il a fait à la sortie de la salle d'audience ?
Bah oui, évidemment. De toute façon, tout m'amuse hein, chez Nicolas Sarkozy. Bon, vous avez compris que j'étais pas forcément une fervente partisane de ce personnage qui, pour moi, mérite ce qu'il mérite. Voilà. Pour moi, la justice a fait son travail et j'espère qu'elle le fera de nouveau, puisque évidemment ça va pas s'arrêter là.
Lui maintenant inspire dans sa cigarette électronique, un nuage de fumée parfumée s'échappe à chaque expiration. Nous parlons de la médiatisation de certaines affaires.
Alors, c'est pas médiatisé de la manière dont j'aimerais. En mettant même de côté le politique, les récentes condamnations de personnalités politiques, mais on l'a vu avec l'affaire Lola, ça prend des tournures politiques alors que l'immonde crime qui avait été commis n'était même pas, lui, d'une volonté politique.
Je lui demande ce qu'il aimerait, lui.
Parfois, j'avoue que j'aimerais qu'on rappelle un petit peu plus la présomption d'innocence. J'aimerais bien qu'on arrête de parler du présumé violeur ou du présumé coupable ou présumé ce que vous voulez, qui est en fait de la contre-présomption d'innocence. Mais la volonté de tout savoir est une question, je trouve, que les médias peut-être parfois devraient se poser. Parce que entre tout savoir et être informé, excusez-moi, les liaisons sont dangereuses, je trouve qu'il y a parfois une limite entre le voyeurisme et l'information qui me questionne par moments. parce que quand on cherche à montrer certains aspects d'une affaire, peut-être on commence à en faire du politique.
Ce jeune homme maintenant, costume impeccable, barbe soignée, nœud de cravate qui tombe parfaitement, il découvre...
La République des juges. Oui, évidemment, je pense que vous faites référence au procès Sarkozy. Ah, c'était une peine excessivement lourde, c'est vrai, parce que c'était la peine maximale qui avait été requise et qui a été appliquée. Après, il faut pas oublier qu'il est tenu à un devoir d'exemplarité, et que là, en l'occurrence, il y avait... différentes thématiques qui avaient attrait à la sûreté de l'État, et c'est pour ça aussi qu'il y avait un devoir d'exemplarité. Et souvent, justement, c'est ces mêmes personnes qui ont eu également ce rôle de législateur qui demandent de la fermeté. Là, en l'occurrence, il y en a eu, donc je vois pas où est le mal.
Il me glisse qu'il a d'ailleurs assisté lui-même à la dernière audience du procès.
C'était assez apaisé, c'était monsieur Djoury qui parlait, il y avait monsieur Nicolas Sarkozy, monsieur Brice Hortefeux et également Claude Guéant, et c'était assez décontracté étonnamment comme ambiance. C'était à la fin et je pense que tout le monde avait relâché la pression.
Ça ressemble à quoi ce genre de moment?
C'est inoubliable. Moi qui suis jeune avocat, vraiment j'ai eu la chance que je m'étais faufilé après une audience perso et c'était vraiment, enfin je l'oublierai jamais. Hein.
Je lui demande ce qu'on répond à celles et ceux qui mettent en doute la neutralité de la justice en France, surtout après ce genre d'affaires.
Simplement qu'il faut arrêter de faire parler ces affaires. Fait qu'on est dans un état de droit et que l'état de droit justement il impose qu'il y ait des lois qui s'appliquent à tous et justement de s'informer et pas uniquement écouter les pressentiments, les amis ou lire précisément, je les invite à lire la décision qui est parfaitement claire et audible pour tous.
Combien de pages ?
324, il me semble.
Bon, je me demandais comment j'allais m'occuper la semaine prochaine pour les vacances. Je vais me lire tranquillement le compte-rendu de la décision. 380 pages, exactement. Dernière rencontre, ce monsieur à la moustache relevée de chaque côté, qui lui donne un petit côté 19e.
Ce n'est pas de savoir s'il existe une république des juges, c'est qu'il existe une république parce qu'il existe des juges.
Bam ! Et voilà, ça, ouais, on y va sur la punchline. Est-ce que cette défiance vient de la médiatisation, des débats qu'il provoque ?
Pour ce qui est de la médiatisation, je rappellerai la phrase de La Rochefoucauld qui disait « Quel est cet catin ? Quelle est la clameur publique qui rentre dans la salle d'audience qui fait sortir la vérité par la fenêtre ?»
Et c'est peut-être là, entre la clameur publique et la salle d'audience, que naît cette fameuse République des juges dont tout le monde parle, un pays où la justice s'écrit autant dans le code pénal que dans le vacarme du dehors.
Benjamin Morel, j'aimerais revenir avec vous sur, vous revenez sur ce que vous voulez dans le micro d'auteur, mais sur cette différence entre le temps médiatique et le temps judiciaire dont on parle souvent. On a l'impression que ce temps médiatique, surtout avec le triomphe des chaînes info, tout le monde veut tout savoir en temps réel. Est-ce que ça c'est vraiment un poison pour la justice ?
C'est le vrai problème en réalité. C'est-à-dire qu'on puisse avoir des femmes et des hommes politiques qui contreviennent à la loi et qui soient condamnés, rien de plus normal d'une certaine façon. Le problème aujourd'hui, c'est que la présomption vaut condamnation. Et dès le moment où la présomption vaut condamnation, on crée deux phénomènes. D'abord, vous pouvez avoir des carrières politiques qui sont évaporées en quelques heures parce que tout d'un coup, il y a une présomption. On évoquait François de Rugy. Et François de Rugy, j'y reviens, mais au fond, il n'y a rien dans le dossier. Et pourtant, il est démissionné. Alors que de l'autre côté, vous avez Éric Dupond-Moretti qui, à l'époque, est ministre de la Justice, va jusqu'à la CGR, mais comme la pression médiatique est moindre, il reste. Et donc, vous voyez qu'au fond, ce qui vous condamne ou pas à la démission, c'est pas tant la gravité de l'affaire.
C'est un ressenti général.
C'est ce qu'on appelle le tribunal médiatique, en fait, non ?
C'est ça. Et la pression, et en fait, aujourd'hui, vous avez deux critères. Est-ce que la pression médiatique monte et combien le président de la République vous a à la bonne ? Si le président de la République veut vraiment vous sauver, il résiste. S'il veut pas vraiment vous sauver, eh bien, il vous vire. Et donc, dans ce cadre-là, vous comprenez bien que là-dessus, eh bien, on a un vrai sujet, un vrai problème. L'autre élément, on l'évoquait, c'est que tout à l'heure, quand vous m'avez interrogé sur est-ce que Nicolas Sarkozy a gagné la bataille médiatique, je vous ai dit oui, dans son électorat. En fait, les électorats ne se comportent pas comme s'ils croyaient dans la justice. Il y en a une partie qui dit bien fait, et il y en a une partie qui dit non, je soutiens. Et ça, vous le trouvez à gauche avec le procès Mélenchon, vous le trouvez au centre avec le procès Bayrou, vous le trouvez à l'extrême droite avec le procès Le Pen. À chaque fois, c'est la même chose. Et donc, ce procès médiatique devient pour une grande partie de l'opinion une façon de détester ou de soutenir ces champions. Et ça, en la matière, ça tue la confiance dans la justice. Parce que même si je dis bien fait, je sous-entends pour moi-même, et lorsque j'en parle, qu'en fait, il y a bien un complot des juges. Et que ce complot des juges, il me sert. Et donc, on a une politisation de la vision qu'on a de la justice à travers ces procès médiatiques, qui fait qu'in fine, vous avez deux perdants. D'abord le politique, et ensuite le juge.
Mais est-ce que ces procès médiatiques ont, on va dire, des conséquences, ont un impact sur ce qui se passe à l'intérieur des tribunaux aujourd'hui ?
Alors, en théorie, non. Après, malgré tout, vous avez forcément un certain nombre d'éléments qui vont apparaître. Mmh. Quand on parle, par exemple, de devoir d'exemplarité, moi je déteste, et encore une fois, on peut critiquer les juges, par exemple, cette notion de devoir d'exemplarité, je la trouve problématique. Une peine, ça a pour but soit de punir, soit de protéger la société, soit de réhabiliter. Ça n'a pas pour but d'être un exemple pour le reste de la société. Si on fait des exemples, on n'est plus dans la justice. Or, parce que justement, vous avez cette montée de pression, etc., le juge considère qu'aujourd'hui, eh bien, cette notion d'exemplarité, elle prévaut. Et le juge et le politique le demandent. C'est-à-dire que quand vous avez un ministre de l'Intérieur qui arrive et qui dit « Moi, je veux des peines exemplaires parce que telle ou telle chose s'est passée avec un petit délinquant », l'idée d'exemplarité s'est posée, ce qui montre qu'entre la justice et de l'autre côté, eh bien, sa mise en scène et sa communication, il y a aujourd'hui une réalité qui s'est insérée. France Inter,
Zoom Zoom Zen. En écho à notre thème du jour, la République des juges, nous partons aujourd'hui pour le quiz à la découverte des décisions de justice les plus insolites, voire les plus saugrenues. Une bonne connaissance ou une bonne expérience du système judiciaire est donc un plus. Qui de Manon ou Quentin l'emportera? Certainement celui qui a un bracelet électronique. Avantage Quentin, donc jouons au Zoom Zoom Test.
Les désactiver là.
Une question facile pour commencer, je dirais pour se chauffer. C'est un arrêt célèbre qui concerne un sport dans lequel Pierre Courade a été 3 fois champion de France catégorie projectile. D'après vous, Manon, Quentin, quand a été interdit en France le regretté lancer de nain? Le 25 octobre 1975, le 25 octobre 1895 ou le 25 octobre 1995?
C'est la réponse.
Effectivement, le célèbre arrêt de la commune de Morsan-sur-Orge, plus communément appelé arrêt du lancer de nain, est un classique des étudiants en droit administratif qui découvrent donc, à peu près aussi effaré que nous, qu'il a fallu attendre 1995 et une décision du Conseil d'État pour enfin interdire cette pratique honteuse portant atteinte à la dignité humaine, n'en déplaise à Courade qui s'y est fait beaucoup d'amis.
Non mais on s'est rendu compte avec Pierre à Marseille
que vous faisiez la même taille.
Kamed Sparrow. Oui, et que personne ne fait de blague sur la taille d'Ahmed Sparrow.
Parce qu'Ahmed Sparrow est 2 fois plus musclé que vous, ce qui fait qu'on a envie de faire aucune blague sur lui. Faisons un saut dans le temps, les amis. Nous sommes à Falaise, en Normandie, en 1386. La ville est en ébullition puisqu'au terme d'un procès de 9 jours qui a passionné les habitants, le verdict tombe. L'accusé, reconnu coupable d'avoir renversé un nouveau-né, est condamné à mort par pendaison. D'après vous, qui est cet accusé? Un brigand qui avait trop bu? Un cheval maladroit? Ou une truie trop gourmande?
C. B. La connais.
B. C. Tu connais la truie? Tu connais l'histoire.
Vous connaissez l'histoire, j'ai eu très peur que ce soit une ex. Vous dites?
J'ai dit B, le cheval.
Le cheval. Eh bien, c'est une bonne réponse de Quentin, lui, qui arrive de temps en temps. Et oui, on l'a oublié, mais au Moyen-Âge, il existait des tribunaux pour animaux. En effet, contrairement à notre droit actuel, c'est l'animal qui, au Moyen-Âge, portait la responsabilité de ses actes et non son propriétaire, même si on pouvait demander à ce dernier d'accomplir un pèlerinage pour n'avoir pas bien surveillé ses bêtes.
Ça aurait pas été recyclé, cette question?
Alors, pas du tout. L'histoire de la truie de Falaise. L'histoire de la truie de Falaise est célèbre.
Incroyable.
Elle a renversé et becqué un nouveau-né. Hop, direction la potence, puis le bûcher, non sans avoir été préalablement traîné dans les rues de la ville, déguisé en femme, ce qui était la pire des punitions de l'époque.
Vous avez bien travaillé.
Le juge de Falaise ayant l'idée extraordinaire de demander aux paysans alentours de venir assister à l'exécution de la truie avec leur propre cochon afin, je cite, que ça leur fasse un enseignement.
Vous en doutez pas, vous ne l'avez jamais raconté.
Oui, c'est bon, on connaît.
Oui, mais vous l'aviez oublié visiblement. Aujourd'hui, globalement, la justice n'est plus aussi cocasse. Mais il existe certains pays, certains états, des décisions tout aussi loufoques. Nous sommes en 2018 dans le Missouri, où Cyril Lacarrière est parti le temps d'un week-end retrouver les copains de son boys club des anciens du FBI. Avec ses buddies, ils ont décidé de braconner le cerf. Là, il vient d'en rater un, le 28e de la journée. You're gonna go, repouille le taquine ses potes. Celle-ci aussi, elle y était dans le dernier. Et heureusement que Cyril vise mal, car en 2018, un braconnier du Missouri va prendre très cher. Un enferme pour avoir buté une centaine de cerfs. Véritable boucherie justifiant donc une peine exemplaire. D'autant que le juge va aller plus loin. Il va condamner David Berry, c'est son nom, à une obligation étonnante. D'après vous, laquelle? Il va l'obliger à regarder Bambi 1 fois par mois pendant 1 an. Il va l'obliger à suivre des soins dans un institut psychiatrique. Il va l'obliger à parader dans la ville, cul nu, avec des bois de cerfs sur la tête et un écriteau « Je suis un vilain braconnier ».
B et C.
Ah.
Vous le voyez cul nu.
Alors.
Et vous pensez qu'il a regardé Bambi pendant 1 mois?
C'est sérieux, Manon Marie.
C'était une bonne réponse de Manon. Les juges du Missouri ne manquent pas d'imagination. Pourquoi contraindre un braconnier fou à une obligation de soins psychiatriques quand il suffit de lui faire mater Bambi? Voilà un système judiciaire qui tient la route. Mais le nôtre n'est pas mal non plus. Retour en France. À vous de me dire, parmi les motifs de licenciement suivants, lequel est un vrai jugement de la Cour d'appel de Paris? Ivre, il urine dans le yucca de sa secrétaire. Ivre, il oublie ses clients à l'intérieur de son VTC. Ivre, il force un apprenti à sniffer de la maïzena.
Les trois.
Ouah, c'est dur.
C'est sûr, mais il y a des trucs hardcore, oui.
B et C.
Pensez à Marie-Monique Robin.
Juste C.
Bonne réponse de Quentin, oui. Décision de la Cour d'appel de Paris du 4 mars 2020, l'apprenti a cru consommer de la cocaïne alors que ce n'était que de la maïzena. Néanmoins, ce bizutage n'a pas été du goût de l'employeur qui a procédé au licenciement pour faute grave. L'avocat de l'accusé, ayant eu beau plaider que, je cite, quand même la maïzena c'est moins fort que la coke, le juge a confirmé que l'entreprise était dans son bon droit. Enfin, je vous présente le juge de proximité de Toulon. Un juge qui, vous allez voir, n'a pas sa langue dans sa poche et qui, évidemment, en a marre de voir arriver sur son bureau des dossiers tout pourris. Je vous résume l'affaire. Madame X loue pour l'été une caravane à monsieur et madame Y qui, déçu de la prestation, assigne Madame X devant le juge de proximité et réclame des dommages et intérêts. Rien d'extraordinaire, Pierre Courade a bien attaqué la République du Cap-Vert pour publicité mensongère. On ne sait pas exactement comment s'est comportée cette Madame X, la proprio, pendant l'audience, mais l'arrêt stipule que la mauvaise foi de Madame X renvoie aux pires heures de l'occupation. La cupidité de Madame X dispute à la fourberie, où Madame X est dotée d'un quotient intellectuel aussi restreint que la surface habitable de ses caravanes.
Oh là là.
C.
Deux peut-être.
B, C.
Bonne réponse. Et effectivement, les juges ne sont pas des machines, mais tout de même de là à insulter un prévenu.
Quelle indignité.
Rassurez-vous, la Cour de cassation cassera le jugement en raison de sa partialité. Vous voyez, Cyril, il y a encore un peu d'espoir pour le président Sarkozy. Défaite de l'impartialité, mais victoire de Manon Mariani.
Nous sommes sur le service public.
T'es fou ?
Quelle indignité.
Vous l'avez vraiment bien recyclé. Hein.
Pas du tout, il y avait plein de questions neuves dedans.
Ouais. Ah ouais ?
Il y avait au moins trois questions neuves.
Ouais, ouais.
Quand l'institution judiciaire est accusée d'être parti pris, le constitutionnaliste et maître de conférences en droit public Benjamin Morel est toujours avec nous pour décortiquer ce qui se cache derrière ce terme de république des juges, très en vogue depuis la condamnation de Nicolas Sarkozy dans l'affaire du financement libyen de sa campagne présidentielle. Benjamin, est-ce que les différentes lois sur la moralisation de la vie politique dont on parlait tout à l'heure, notamment après l'affaire Cahuzac, ça a permis vraiment d'assainir notre vie politique ?
Alors, oui et non. Désolé de cette réponse un petit peu ambiguë, un petit peu normand.
Tout à l'heure, vous êtes optimiste là-dessus.
Ben, oui, d'une certaine façon. C'est-à-dire qu'en effet, comme je l'évoquais, on a la classe politique la plus propre de l'histoire. Ces lois, elles sont extrêmement efficaces parce qu'elles permettent de qualifier et de condamner. Et à chaque condamnation, ben, on peut constater que le système marche. Le problème, et ça aussi on l'évoquait un peu tout à l'heure, c'est qu'en fait, ces lois, elles avaient deux objectifs. Elles avaient pour objectif d'assainir la vie politique et de recréer la confiance. Sur l'assainissement, ça marche. Sur la confiance, ça a été finalement, au fond, assez contre-productif. Parce que, comme je vous l'ai évoqué, chaque fois qu'une affaire existe et chaque fois qu'une affaire permet de juger et de condamner, ça montre que le système marche bien. Mais les Français ne voient pas ça. Les Français considèrent que plus il y a d'affaires, plus ça montre et ça démontre que l'ensemble de la classe politique est corrompue. Or, on devrait voir les choses inversement, mais malgré tout, c'est le cas. Et donc, on a un juge qui est considéré comme complotant contre le politique et un politique qui est supposé être tous pourris. Et ça, bah, ça rompt un peu les deux pieds de la démocratie.
D'ailleurs, comme ces affaires touchent tous les bords politiques, finalement, est-ce que vous sentez monter une sorte de corporatisme politique ? On évite de critiquer son adversaire parce que, finalement, on est tous dans le même bateau. On risque tous d'être emprêtés dans une affaire judiciaire. On se souvient de François Bayrou, qui était Premier ministre à l'époque, qui s'était publiquement interrogé sur l'intérêt de l'exécution provisoire de la peine d'inéligibilité de Marine Le Pen.
Alors, ça monte et en même temps, c'est quand même extrêmement, extrêmement tentant de taper sur un adversaire politique. Exactement. C'est-à-dire qu'enfin, vous avez quelque chose pour le saisir. Et donc, on parlait tout à l'heure de la présomption d'innocence, du temps politique, etc. C'est tellement tentant de le faire que bien souvent, vous avez des politiques qui rentrent dans la brèche, mais pour des mauvaises raisons. En disant, bah, moi, j'aime pas Sarkozy, donc vous voyez bien qu'il est coupable. Et donc, ça, évidemment, bah, ça accrédite cette idée qu'au fond, la justice est politique chez ceux qui aiment bien Nicolas Sarkozy, qui considèrent que parce qu'un tel, l'attaque vertement, bah, ça montre bien, vous voyez, que le juge est politique. Donc là-dessus, on a un système qui est doublement pernicieux et qui fait que, bah, justement, on fragilise ces deux piliers.
Et ce jeune avocat, justement, sur l'affaire Sarkozy, qui conseille de lire les 380 pages du compte-rendu du procès, qui va le faire, à votre avis, ça ? Est-ce que c'est pas ça aussi le problème de pas vulgariser un tout petit peu le fonctionnement et le raisonnement de la justice ?
Alors, exactement. C'est-à-dire qu'on connaît aujourd'hui très mal notre justice. On connaît très mal le système judiciaire. On sait très mal comment ça fonctionne. La plupart du temps, quand vous avez une affaire judiciaire, on nous interroge, nous, les juristes, en nous disant « Oui, mais regardez, là, un tel, le petit délinquant, il va pas en prison, alors que Nicolas Sarkozy, si. » Si vous discutez, si vous connaissez un peu le droit pénal, et je suis constitutionnaliste, je suis pas pénaliste, mais si vous avez fait un peu de droit, vous comprenez la différence, vous comprenez les décisions de justice. Mais en France, il est vrai que dans la culture générale, vous avez la physique, vous avez l'histoire, vous avez la philosophie. Ouais. C'est très très bien. Mais le droit, on ne l'apprend pas au lycée, on ne l'apprend pas au collège. Mmh. Et on le découvre soit eh bien, dans le cadre de la vie publique, etc., de manière très imparfaite, soit en fac de droit, mais tout le monde ne va pas en fac de droit. Et là, il y a quand même un aspect éducatif à côté duquel on manque, parce que le droit, pour le pire et parfois aussi pour le meilleur, on le rencontre à tous les moments de notre vie.
On l'a évoqué, Marine Le Pen sera jugée en appel en début d'année, pendant la campagne pour les municipales. Est-ce que la justice doit s'adapter au calendrier électoral ou au contraire, elle doit être totalement déconnectée de ces considérations politiques ?
Alors, est-ce qu'elle doit s'adapter au calendrier électoral ? Sans doute. Et au risque de vous choquer, un politique n'est pas tout à fait injustifiable comme les autres, pas parce qu'il doit le droit à un traitement de faveur, mais parce que derrière, eh bien, il y a un intérêt général. Mmh. Il est important pour l'électeur de savoir quelle va être l'offre politique. Si, admettons, Marine Le Pen n'était pas condamnée, hein, au vu du dossier, c'est peu probable, mais admettons, elle n'est finalement pas condamnée, mais ça arrive deux jours après les élections présidentielles. Vous comprenez bien que vous avez privé d'une partie de, une partie de l'électorat d'un vrai choix. Et donc, là-dessus, il est important d'adapter ça. On le fait dans plein de cas, en fait, adapter le calendrier judiciaire, adapter certains éléments du procès à un impératif qui est un impératif d'intérêt général, l'élection, le choix de l'électeur, la liberté de l'électeur, c'est un impératif d'intérêt général.
Vous écoutez France Inter, il est 16h46. L'heure d'ouvrir la pièce jointe de Manon Mariani.
Une magistrate aujourd'hui, blonde, lunettes rouges, accent norvégien, je vais vous parler de Eva Joly. Venue en France à 18 ans comme jeune fille au pair, très vite, elle décide de rester ici pour faire sa vie. Elle devient juge d'instruction à Paris dans les années 80, une époque où les affaires politico-financières sont encore l'apanage d'un petit cercle d'hommes puissants et intouchables. Et c'est justement contre ce monde-là qu'Eva Joly va se dresser. En 1994, elle hérite du dossier Elf Aquitaine, un scandale d'État où se mêlent argent public, pots de vin et comptes secrets à l'étranger. Pendant 7 ans, la juge va enquêter, convoquer, interroger les plus hauts responsables de la République. Et parmi ceux qu'elle épingle, un nom retient l'attention, celui de Dominique Strauss-Kahn. En 1999, alors qu'il est ministre de l'économie, il est mis en examen par Eva Joly dans l'affaire de l'AMNEF, une mutuelle étudiante soupçonnée d'avoir servi à financer des réseaux politiques. L'affaire sera classée 2 ans plus tard, mais elle marquera un tournant. Pour la première fois, un ministre en exercice figure montante de la gauche et publiquement inquiétée par la justice. 10 ans plus tard, quand Libération lui parle de DSK et de sa potentielle candidature aux élections présidentielles, Eva Joly répond « DSK, je le connais bien, je l'ai mis en examen ». Une phrase qui lui a valu le prix de l'humour politique.
Largement mérité. Mais l'affaire Elf a énormément marqué Eva Joly, Manon.
Et bah oui, parce qu'elle a quand même été surnommée la juge rouge ou encore la juge qui fait trembler les puissants. Elle est caricaturée, victime de sexisme, elle est même menacée de mort. Elle dit avoir dû prendre des gardes du corps pour sa propre sécurité à ce moment-là. Après cette affaire, Eva Joly quitte la France, épuisée, menacée. Elle reçoit le prix de l'intégrité décerné par Transparency International. Elle part en Islande, elle conseille le gouvernement après la crise financière avant de revenir en France pour tenter une aventure politique sous les couleurs des écologistes. C'était en 2012, elle est candidate à l'élection présidentielle et elle échoue avec seulement 2,3% des voix. Depuis, Eva Joly poursuit son combat pour la transparence et la justice. Députée jusqu'en 2019, elle s'est spécialisée dans la lutte contre la fraude fiscale et les paradis fiscaux, notamment après le scandale des Panama Papers. Suite à la condamnation de Nicolas Sarkozy, elle a pris la parole en disant que le tribunal avait condamné une bande de malfaiteurs dans laquelle Nicolas Sarkozy était le meneur.
Merci Manon. Benjamin Morel, il y a eu un avant et après Eva Joly en France, quand on parle de justice qui s'attaque, s'attaquer aux politiques frontalement.
Oui, c'est vrai. Alors, il y a eu, je dirais, une période particulière qu'Eva Joly, en effet, incarne. Et cette période particulière, on la retrouve dans beaucoup de pays européens. En Italie, c'est l'opération Main Propre, où là, en quelques années, l'ensemble du parti qui tenait le pouvoir, en fait, depuis la Libération, le Parti Chrétien-Démocrate, est balayé par les affaires judiciaires, etc. Et en effet, en France, vous avez également ce moment-là, moins impressionnant, que va incarner Eva Joly, où le juge, justement, eh bien, se réveille, se libère à les normes de référence pour tout d'un coup condamner. Si on veut être optimiste, ça a libéré justement la justice. Si on veut être pessimiste, après la purge du Parti chrétien-démocrate en Italie, vous avez Silvio Berlusconi. Et donc, ça ne garantit pas, entre guillemets, une
la
politique
qualité de
qui est plus saine. Derrière, vous avez un électorat qui peut être désensibilisé et anesthésié et finalement continuer à voter, même quand il y a de grosses affaires.
Zoom Zoom Zen, Mathieu Noël sur France Inter.
Allez, un mois.
Bah dis donc, Marine, oui, Marine a pris la parole, mais c'est pas encore à vous. Il y a une autre séquence avant vous. Oui, c'est vous, mon petit nombril. Mais pas le centre du monde, Karamazov. Bon, bien placé. En termes d'humour graveleux, rien n'aurait pu préparer nos spectateurs marseillais de vendredi à ce qu'il leur a infligé. Ni Bad Buzz, le film d'Éric et Quentin, ni Gomez et Tavares avec Stommy Bugsy, pas même Taxi 5. Non, rien ne pouvait nous préparer à ces jeux de mots.
Comme on est à Marseille et qu'on doit faire des économies, ça doit être un Ibis peu cher.
Pierre, Dieu soit loué. Vous retrouvez aujourd'hui votre zone de confort. Le résumé en une minute chrono de ce qu'on s'est dit dans l'émission.
Oui, une émission qui a été très utile finalement. Je n'y croyais pas en cette république des juges jusqu'à ce que je me sente jugé par ma propre équipe après ma prestation marseillaise. Sachez que les rires que vous avez coupés et que j'ai reçus constituent le seul verdict qui vaille. La république des juges, donc, cet après-midi avec le constitutionnaliste Benjamin Morel, un terme souvent repris par les personnalités politiques quand elles en maillent à partir avec la justice. C'est avant tout un abus de langage, car pour Benjamin Morel, les magistrats ne font qu'appliquer la loi. Et qui fait la loi? Les politiques eux-mêmes. Voilà déjà un premier argument qui plaide contre cette supposée république des juges. Autre élément apporté par Benjamin Morel, hein, des personnalités politiques de tous bords ont été condamnées ces dernières années. À chaque fois, les partis concernés ont crié au scandale, ils ont essayé de prendre l'opinion à témoin. Une manœuvre qui ne fonctionne pas d'après notre invité. Les partisans restent convaincus d'une chasse aux sorcières, pendant que le reste de la population donne raison à la justice. En fait, si on a l'impression que les affaires se multiplient, c'est surtout que l'arsenal juridique s'est étoffé depuis les lois de moralisation de la vie politique. C'est donc une bonne nouvelle, d'après Benjamin Morel, c'est signe d'une bonne santé de notre système. Sa conclusion sous forme de conseil à notre classe politique, jouer les perles à morale n'est pas un totem d'immunité.
Merci Pierre, finir sur une belle citation de Koh-Lanta. Bravo à vous. Marine Leonardi, vous préférez la justice aux politiques?
Non mais pardon, mais j'ai beaucoup ri en lisant la doc de l'émission. La justice empêcherait les politiques d'y arriver. C'est absurde, hein. C'est comme si je disais la carotte empêche l'orgasme prostatique. Alors que dans les deux cas, il suffit d'avoir un bon avocat. Oh. Est-ce que je suis... Oui, c'est ce qui m'inquiète. Est-ce que je suis fière de cette analogie filée? Est-ce qu'il y a un jeu de mots avec analogie? Est-ce que je soupçonne Cyril de programmer des sujets sur la justice parce qu'il ne connaît pas ce mot? Peut-être. En tout cas, moi, quand la justice condamne un homme, je ne me dis jamais qu'il est innocent, déjà parce que c'est rare qu'un homme soit condamné. Je rappelle qu'encore en 2025, hein, le seul moyen de voir sa plainte pour viol acceptée dans un commissariat, c'est d'être habillé en doudoune Patagonia avec des crocs, hein, ou alors avec cette veste, ça marche aussi. Moi, j'ai des copines qui ont déjà envoyé Pierre Courat de faire leur déposition, mais bon, il a fini par se taper l'officier de police. Ah bah oui, si on avait encore des doutes sur le fait que Pierre Courat est de droite. Donc quand la justice dit « ce mec a tort », je suis là « ah ouais, là c'est chaud sa mère, c'est un énorme enfoiré, vraiment ». La problématique des politiques, c'est que selon eux, la fin justifie les moyens. Alors attention, la fin, F-A-I-M. Moi j'ai failli me faire sauter dans ma prime jeunesse par un député de droite, mais je n'ai jamais aussi bien mangé. Hein. Ah non, mais le pauvre, j'avais le bide tellement rempli qu'il a jamais pu glisser le bulletin dans l'urne. Ah mais j'ai voulu le revoir parce que bah, je suis une michto. Mais apparemment j'ai pas le physique pour aller deux fois de suite au Meurice. Depuis je mange léger quand je vais au resto. Mais bon, je suce toujours pas, donc c'était pas ça. Là Cyril est tendu. Il est tendu, ah, oui. Parce qu'il y a des sorties d'école, hein, qui nous écoutent, donc je corrige quand même, hein, les enfants, attention, faut jamais manger le menu Happy Meal en entier si vous voulez avoir de la place pour le Sunday. Après moi, faut pas rire aux blagues pédophiles, ça nous met dans de très mauvaises postures. Après moi, mes chouchous, ça reste les Sarkozy. Personne ne va me contredire, c'est extraordinaire. Entre Carla qui décalote le micro de Mediapart, le fiston qui nous décrit tous ses tatouages romains et le daron qui a un bracelet électronique, t'es là, mais vraiment. Pourquoi mater Love is Blind quand tu peux acheter Paris Match, hein? Leur fille Julia, elle a 13 ans, elle a plus d'abonnés que moi et une meilleure manucure. Voilà, merci. Moi, à son âge, je troquais des feuilles d'idole et je ressemblais à ceci. Voilà, je vous montre. Pardon. Alors, pour nos auditeurs qui ne voient pas, c'est un mélange entre Priscilla et la Rousseau, on ne sait pas trop. Non, mais c'est fou que ce soit bien moi. Alors, je sais qu'on a du mal à se projeter quand on voit quand même la bombe que je suis devenue aujourd'hui.
Non, c'est similaire.
Allez, on enchaîne. En tout cas, ce qui est génial avec la corruption en politique, c'est que personne ne tire jamais des leçons du passé. Ça, c'est quand même fou. Alors que moi, grâce à cette photo, je sais que le noir sous les yeux, maintenant, c'est non. Hein. Sauf si je vais à un concert de Kyo. Jeanne d'Auxerre, maire du 8e, a avoué il y a 10 jours avoir dépensé 35 000 euros de vêtements de représentation en 5 ans grâce à l'argent des Français qu'elle remercie. Et le pire, c'est qu'elle est même pas si bien fringué que ça. Non mais vraiment, j'ai montré sa photo à Mathieu qui m'a dit « Oh, t'exagères, c'est pour vous dire à quel point la nana est mal fringuée. » Hein ? Comme En politique, c'est comme dans la mode. Si les gens commencent à te tailler un costard, c'est que le costume est trop grand pour toi.
Merci, malgré tout, Marine Leonardi. Remontrez-nous cette photo pour vos fans qui nous suivent en vidéo.
Non, 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 pas.
Qu'est-ce qui est écrit sur votre petit...
Diesel.
Ah oui, Diesel, déjà passionné par les marques, évidemment.
Mais elle l'a aussi imprimé sur sa chronique.
Oui,
pour ne pas l'oublier, comme ça, j'ai pu la voir en lisant.
C'est pour ça qu'on a une sale gueule, c'est qu'il n'a pas dormi depuis 3 jours.
Marine, on vous retrouve la semaine prochaine dans Zoom Zoom. Merci beaucoup Benjamin Morel de nous avoir éclairé sur cette notion de République des juges. C'était passionnant. Vous n'aurez pas convaincu Cyril, mais beaucoup de nos auditeurs certainement. Zoom Zoom Zen.